Joignez-vous à la discussion. Appelez ou textez le 187 Cube Radio. 1-877-827-2346.
Joseph Facal est avec nous. Je vous invite à le lire dans le Journal de Montréal, Journal de Québec. Joseph, bonjour.
Bonjour, Benoît.
Bonjour. Et je comprends que tu as des billets de saison pour le Canadien de Montréal là, après ta chronique.
Non, je n'ai pas de billets de saison. Et je pense que si je faisais une demande, mettons que mon dossier ne serait pas traité en priorité. Mais tu sais, Benoît, si je regarde le rapport qualité-prix, j'estime que je suis mieux servi en allant voir le junior.
Pourquoi?
Parce que c'est beaucoup moins cher, parce que tu sens que ces jeunes du junior se forcent à chaque match, parce qu'ils ont évidemment l'espoir d'une carrière, et parce que finalement, je trouve que on la joue, si tu veux, plus discrète. Il n'y a pas cette espèce de spectacle assourdissant. Écoute, Benoît, la dernière fois que j'étais au Centre Bell, je devais hurler pour être entendu par la personne qui est à côté de moi. C'était comme être dans une discothèque. Enfin, bref.
C'est vrai, Joseph, il n'y a pas un moment où tu peux parler à ton voisin, parce que quand le jeu s'arrête, ils partent la musique en anglais, AC/DC, des vieilles platitudes, Scorpion, des affaires qui éteignent, là, ils ont toujours pas renouvelé leur répertoire de chansons, puis surtout pas avec du québécois, du francophone, mais c'est insupportable à un moment donné.
Non, tu risques pas, en effet, d'entendre certaines tunes socialement engagées des cow-boys fringants au Centre Bell, surtout pas.
Si tu l'entends, Joseph, elle va durer 4 secondes.
Ah oui, effectivement.
C'est entre deux mises au jeu, là.
Non, tout à fait. Alors, bref, je n'y allais déjà pas beaucoup, mais là, je sens que je ne serai pas en odeur de sainteté auprès de la sainte flanelle. Et je m'en fous totalement.
Tout ça parce qu'il y a eu le message qui va se répéter avant chaque match, où le Canadien de Montréal dit que c'est un territoire traditionnel non cédé des Mohawks. Et toi, ça te fait grincer des dents, surtout face à l'histoire de la famille Molson.
Écoute, premièrement, les quelques informations que j'ai sont à l'effet que le Canadien s'apprête, comme on dit, à rétro-pédaler. Et là, évidemment, comprends-tu, ils ont un énorme problème. C'est-à-dire que si le Canadien recule, il va évidemment fâcher les Mohawks. Et s'il persiste, il s'enfonce. En fait, il ne peut pas persister, car c'est un des plus gros fake news du Québec contemporain que de faire croire que Montréal fut jadis un territoire Mohawk. Alors évidemment, quand vient le temps de se faire des leçons d'histoire, ben je me suis permis de rappeler quelques pages d'histoire de la famille Molson. Je n'en veux pas personnellement à Jeff Molson, qui m'a l'air d'un très gentil monsieur. Mais Benoît, que le Canadien nous fasse à croire qu'il se soucie de justice sociale, c'est comme si un écologiste s'achetait un gros camion. J'y crois pas.
Un pick-up, un V8 pick-up F-150, quand tu dis t'es écolo, puis tu crois en justice sociale, non, ça t'impressionne pas, toi.
Écoute, Benoît, quand c'est rendu que dans un débat comme celui-là, même Québec solidaire n'applaudit pas du tout l'initiative du Canadien, ça prouve à quel point c'est une monumentale erreur de jugement. Et moi, Benoît, qui ne suis pas un journaliste d'enquête, en fait, qui ne suis pas un journaliste, point, j'aimerais donc ça que quelqu'un fouille et nous raconte de qui l'idée est venue. Comment ça a été piloté à l'interne? On a consulté qui a pris la décision ultime, et surtout, y a-t-il quelqu'un qui a dit à M. Molson, « Jeff, y as-tu bien pensé? Y as-tu bien pensé? » C'est quoi les dessous de cette affaire-là? Ouais. Ça doit être passionnant à le savoir.
Mais en même temps, tu sors l'histoire de la famille Molson, mais Jeff Molson n'est pas responsable du comportement de ses ancêtres.
Évidemment. Et je prends bien soin de dire que les pages que je rappelle sont des vieilles pages. On aurait pu aussi, par exemple, rappeler certaines pages peu glorieuse de la vie de Peter McGill et James McGill, vus comme de grands philanthropes montréalais, alors qu'ils ont aussi leur part d'ombre. C'est simplement que quand on manipule le passé pour donner des leçons, c'est comme cracher en l'air. Alors évidemment, moi, quand on me fâche, quand on me cherche, on me trouve. On me trouve. Hein? Et donc, si on veut me donner des faux cours d'histoire, ben moi, je vais vous donner des vrais cours d'histoire.
Vas-y.
Ben, écoute, les Molson, évidemment, arrivent ici au moment de la conquête britannique. Ils sont d'éminents brasseurs d'affaires. Ils ont des intérêts tout à fait diversifiés, pas seulement dans la bière, mais évidemment, ils ont joué un rôle politique. Et au moment où les réformistes, qu'on appellera plus tard les patriotes, autour de Papineau et d'autres, commencent à demander des réformes, commencent à dire, ben, tant qu'à être des sujets britanniques, donnez-nous aussi un certain nombre de droits, eh ben, il faut savoir que les Molson, particulièrement l'un d'entre eux, firent partie de la faction la plus dure, celle qu'on appelait le parti bureaucrate, celle qui s'est alliée, évidemment, au tristement célèbre John Colborne, et qui dépasse, évidemment, le gouverneur de l'époque, Gosford, qui, lui, suivant les ordres de Londres, voulait plutôt mettre de couvert sur la marmite et que ça dégénère pas. Mais non, évidemment, il y a eu une faction Tory ultra dure qui s'appelait la Montreal Constitutional Association, qui, elle, évidemment, était hantée par la crainte de devenir un jour des sujets d'une République canadienne-française. Et évidemment, ces gens-là se sont armés. Et ces gens-là ont joué un rôle décisif comme milice volontaire aux côtés des troupes britanniques lors des troubles de 37-38.
Alors, anti-francophone, là, carrément. Là.
Évidemment. Oh, oui. Alors, on est plus du tout, Benoît, dans simplement, oh, le Canadien a laissé passer un petit francophone au quatrième tour du repêchage. Non, non, là. La famille Molson, elle a joué un rôle essentiel pour le maintien de la mainmise de l'Empire britannique par tous les moyens, y compris les armes, et tout ça a culminé dans les événements sanglants de 37-38. Évidemment, j'ai pas le temps de te dire tout ce que j'ai appris, mais l'historien François Deschamps a écrit des livres, a fait des études extrêmement intéressantes sur cette faction royaliste, loyaliste, ultra hard, dont on fait partie les premiers Molson. Alors je répète, je ne blâme pas le pauvre Jeff, dont je me demande même s'il est au courant de tout ça. Mais attention, quand on fouille le passé, ce qui est bon pour Minou est bon pour Pitou.
Oui, alors ça prendrait peut-être un message aussi pour les francophones qui sont faits bardasser au 19e siècle, je sais pas. Puis tu sais, je lisais aussi, là, parce qu'en lisant ta chronique, Joseph, j'ai allé voir l'émeute de 1955, tu sais, avec Maurice Richard, là, qui se fait tenir par un arbitre pendant que le joueur de Boston, il sac d'autres coups à la tête, puis tu sais, puis là, c'est Richard qui se fait, il plante le juge de ligne, puis c'est lui qui est suspendu. Il y a tout un rapport au ce qu'on appelait les Canadiens français avec la Ligue nationale de hockey, qui a pas, ils sont mal placés pour nous faire la leçon, là.
Tout à fait. Évidemment, ici, il faut faire des nuances, dans la mesure où le Canadien n'a pas toujours été la propriété de la famille Molson. À différentes époques, il y a eu différents propriétaires. Mais voir aujourd'hui, cette organisation qui est extrêmement calculatrice, mercantile, cynique et qui se soucie d'abord et avant tout de remplir les sièges et de vendre de la bière et des hot dogs pour un spectacle, je te dirais, qui à mon avis est un prix exorbitant pour ce qui nous est offert.
Ouais.
Voir ces gens-là aujourd'hui nous faire le coup du grand justicier social qui tend la main dans un esprit de réconciliation, hey, opportunisme, cynisme et hypocrisie. Me faire la morale par le Canadien de Montréal, je vous en prie, qui se garde donc une petite gêne. D'autant que c'est non seulement une fausseté historique, ça, la fin du territoire mohawk, c'est que concrètement, concrètement, ça changera rien dans la vraie vie des communautés autochtones. Absolument. La seule chose que ça fait, c'est culpabiliser tout un peuple qui, finalement, historiquement, n'a pas été si pire que ça envers les Premières Nations, si tu compares aux horreurs commises par les Américains, pour ne rien dire des Espagnols en Amérique latine.
J'en ai assez. Je comprends.
C'est continuel des Québécois francophones.
Mais si Jeff Molson se sent si coupable, il peut donner une partie de ses revenus des tours à condos du Canadien, puis une partie des revenus du Canadien de Montréal à la communauté Mohawk. C'est qu'il fasse quelque chose de réel.
Mais bien entendu, il pourrait, je sais pas moi, donner de l'argent, construire un aréna, donner des bourses pour les jeunes étudiants autochtones, en repêcher un s'il est vraiment bon, name it, qu'il fasse bien ce qu'il veut. Mais là, on est dans le symbolisme creux, et en plus, un symbolisme fondé sur un mensonge. Mmh. Et là, Benoît, je reviens à ce que je te disais au début. J'aimerais ça savoir comment on a pu commettre une bourde aussi monumentale. Quelqu'un n'a pas fait ses devoirs. Car c'est une question bien documentée et ça me fait sourire quand j'entends les gens depuis 48 heures dire « c'est un débat d'historien ». Non, Benoît. Il y a un débat entre historiens et militants de la cause autochtone. Mais entre historiens, je te mets au défi de trouver un seul vrai historien de métier, donc quelqu'un qui fait de l'histoire et pas de l'idéologie, qui viendra te dire qu'au moment où Champlain arrive, et plus tard, quand Maisonneuve fonde Montréal, qu'il y avait une présence Mohawk soutenue sur le territoire de l'île de Montréal. C'est pas vrai! Ils étaient aux États-Unis et ils sont venus par la suite pour une variété de raisons. Ils sont venus les uns parce que les missionnaires catholiques ont fait un maudit bon pitch de vente et que quelques-uns étaient séduits par cette nouvelle religion. Mais beaucoup d'entre eux aussi ont quitté les États-Unis au lendemain de la guerre d'indépendance. Sais-tu pourquoi? Parce qu'ils avaient choisi le mauvais camp. Ils s'étaient alliés aux Britanniques. Donc, ils n'étaient pas particulièrement populaires auprès des colons américains qui venaient de se libérer de la tutelle britannique pour fonder leur nouveau pays. Ils avaient choisi le camp des perdants. Donc, évidemment, beaucoup d'entre eux ont pris leur clic et leur claque et sont partis au nord. Et c'est correct. Mais ça, c'est bien avant 1642, Fondation de Montréal. Bien après, plutôt. Et au moment où Cartier nous parle des Autochtones qu'il rencontre en remontant le fleuve, on sait maintenant que c'était des Iroquois. Bon, le professeur de l'âge, lui, dit les Algonquins. Ça se discute. Mais les Mohawks étaient juste pas là.
Parfait. Joseph, on envoie ta chronique à Jeff Molson en livraison spéciale, puis on va voir sa réaction. Merci, c'est à lire dans le journal aujourd'hui. Salut!
Merci, salut, bye!